Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour à tous, bienvenue sur Syllab. Bonjour Alexandre, oui tout à fait, vous êtes dans votre tranche d'info locale et pour animer cette émission, vous l'avez déjà entendu, il va vous présenter le programme, c'est Alexandre, bonjour à toi.
Bonjour Romain, nous recevons Tristan Le Bouffant, cofondateur d'un studio de création de jeux vidéo, Sentry Games, situé à Rennes. Il travaille actuellement sur un nouveau genre de jeu compétitif baptisé Célion. On discutera avec lui d'un nouveau concept, mais aussi de création de jeux vidéo indépendant.
Et puis on ira faire un tour du côté du Tour Alternativa, le slogan « Changeons le système, pas le climat ». Vous l'aurez compris, il s'agit d'une grande initiative nationale de préservation de l'environnement. Le tour s'arrête à Rennes le 5 juillet avec une grande journée sur le mail François Mitterrand, avec notamment une scène musicale estampillée Syllab.
C'est parti pour l'inattendu. Le 14 juin dernier, s'est terminé l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. C'était l'occasion pour Ubisoft, Nintendo ou encore Sony de présenter les futurs projets pour 2018-2019. Et à l'heure où ces mastodontes du jeu vidéo présentent de plus en plus de jeux au gameplay et à la narration parfois peu originale, nous avons le plaisir, sur Inattendu, de recevoir Tristan Le Bouffant, cofondateur de studio de Sentry Games, pour nous parler de son jeu Célion. Bonjour.
Bonjour.
Donc Célion, c'est un jeu vidéo rennais en développement qui tente de réaliser le défi d'associer deux styles de jeu, le MMORPG, le jeu de rôle en ligne multijoueur, et le MOBA, le jeu d'arène multijoueur. Donc on peut se demander comment vous êtes venu l'idée de réunir ces deux styles de jeu.
Eh bien, en fait, c'est assez simple. On est donc deux associés à avoir créé le studio. Et en fait, on est passionnés des deux styles de jeu. Et en premier lieu, du MMORPG. Et malheureusement, en vieillissant, on a moins de temps pour faire du MMORPG. Et du coup, y a un gameplay qui nous manquait. Il y avait un style de jeu qui nous manquait. Et c'était le style qu'on met dans Célion, du combat de boss par équipe. Et donc voilà, on s'est dit on va extraire du MMORPG la partie qu'on aime bien et on va le proposer aux joueurs sans qu'ils aient à passer des heures et des heures pour jouer.
Le MOBA, ça se rapprocherait de jeux comme Overwatch ?
C'est plutôt League of Legends qui cartonne en ce moment, ou Heroes of the Storm.
Ok, et même si ça reste essentiellement un jeu multijoueur, dans la description du projet, on peut lire qu'une aventure solo est disponible. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette aventure et sur l'univers qui est développé dans Célion, ce qu'on retrouve comme créature et tout ça ?
Alors, en fait, on est rôliste à la base, donc on fait du jeu de rôle, on fait du grandeur nature. Et du coup, on avait vraiment l'envie de proposer un univers original aux joueurs pour qu'ils puissent aussi se sentir immergés, pas juste faire une partie et combattre des monstres, mais vraiment faire partie d'un univers. Et donc, c'est pour ça qu'on propose une campagne solo où les joueurs vont pouvoir découvrir en fait chacun des monstres, chacun des boss du jeu à travers une campagne narrative où ils vont affronter tout seuls les boss, avec des stratégies qui seront plus simples et qui vont leur permettre de découvrir un peu qui sont ces monstres, pourquoi ils sont là et surtout qui est Célion et pourquoi ils ont été recrutés, enfin voilà.
Et donc du coup dans tout ce qui est univers, on nous rapproche du médiéval fantastique, du steampunk.
Alors au départ on voulait faire un univers steampunk à la façon Dishonored. Mm-hmm. Et puis finalement en fait notre graphiste Gilles Duin, qui nous a rejoint en avril, a un peu fait changer les choses. Il a proposé son propre style qu'on pourrait qualifier de steam manga. Donc c'est un espèce de mélange, c'est du steampunk gothique un peu remasterisé façon manga, façon comics. Lui, ses inspirations, voilà, c'est le comics américain, les mangas japonais. Et du coup, il a fait un doux mix et il nous a proposé ça. On a accroché à l'univers, on s'est dit que ça c'était pas encore vu vraiment dans le jeu vidéo. Et donc ça donnait une touche vraiment unique à Célion et ça collait parfaitement. Et donc on est parti là-dessus.
Ok, et du coup, donc dans ses inspirations, on a donc du steam manga, comme vous avez dit. Et donc du coup, en ce qui concerne les jeux qui ont pu vous influencer, on a donc League of Legends,
ouais,
vous en avez d'autres ?
Il y a Dishonored, World of Warcraft.
World of Warcraft. Sauter peut-être.
Sauter, exactement, le jeu de LucasArts sur Star Wars. Moi, j'étais un gros joueur de Terra Online qui donnait une nouvelle dimension au gameplay un peu plus dynamique que World of Warcraft. Donc voilà, c'est un peu tout ça nos inspirations. Un peu d'Overwatch sur la façon dont on choisit ses personnages qu'on va retrouver un peu chez Célion aussi.
Donc on a une touche de personnalisation qu'on retrouve dans le jeu.
Voilà, exactement. En fait, le joueur, pour qu'il se sente immergé, il va créer son avatar comme dans un MMORPG. Et il va du coup jouer lui, il va se jouer lui-même. Et en fait, à chaque partie, il va pouvoir choisir des armes qui vont lui donner ses pouvoirs. Et donc les armes, c'est des choses qui vont se greffer à sa peau avec un système qui vont lui permettre d'avoir des pouvoirs différents suivant les parties.
Et Célion, ce sera d'abord un jeu PC, un MOBA sur PC, c'est parfait pour introduire le jeu à l'e-sport, c'est une discipline qui vous intéresse ?
Exactement, voilà. Alors, dans un premier temps, on va sur le marché PC parce qu'on connaît, en fait, on est deux anciens d'un studio rennais aussi, qui malheureusement n'a pas connu le succès. Et en fait, on connaît bien cette scène-là. Donc, on se développe d'abord sur PC. En plus, le MOBA s'y prête plutôt pas mal. Et donc, on introduit, nous, on est un peu compétitif, on fait du volley tous les deux en club, en compétition. Et donc, on aime bien un peu le challenge. Et on propose aux joueurs un nouveau style de jeu où ils vont pouvoir s'affronter dans deux mondes parallèles. En fait, ils vont, dans une course contre la montre, ils vont essayer de battre leur boss le plus vite possible. Dans ce mode-là, qu'on a appelé Rift, en fait, ils vont avoir un nouveau pouvoir qui va leur permettre de passer d'un monde à l'autre pendant un court laps de temps et qui vont leur permettre d'aller perturber la progression de l'ennemi. Et donc, en fait, ils vont devoir choisir quel est le bon moment pour aller de l'autre côté. Et quand ils passeront de l'autre côté, en mode transe, ils vont avoir des nouveaux pouvoirs et ils vont pouvoir mettre des zones qui vont empoisonner leurs ennemis, mettre des cages autour de leurs ennemis, mettre des murs pour empêcher qu'ils attaquent le boss, etc.
Ok, donc on retrouve vraiment cette idée de... En fait, moi, je pensais qu'on allait perdre ce côté joueur contre joueur, mais on le retrouve par ce mode Rift, en fait.
Exactement, c'est ça. En fait, le cœur du jeu, c'est du combat de boss, donc joueur contre PC. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est que le mode Rift perce dans l'e-sport et on puisse proposer une nouvelle façon de jouer, sortir un peu du Counter-Strike, sortir du Quake, du League of Legends, et voilà, avoir un nouveau style de jeu que nous, aujourd'hui, on a appelé le PvE MOBA.
PvE MOBA. Ok. Et le jeu, comme vous l'avez dit, il est prévu pour être joué sur PC. Est-ce que si ça fonctionne, vous seriez intéressé pour le développer sur d'autres supports, type PS4, Xbox One, Switch ?
Ouais. Alors ça, c'est un plan prévu dans 3 ans, en fait.
Ok.
Le temps que ça nous laisse le temps d'étudier le marché des consoles. On utilise un moteur de jeu qui s'appelle Unity, qui permet en fait de passer sur console plutôt aisément, en particulier le marché Xbox. Et donc voilà, dans un premier temps, on proposera le jeu sur Xbox et puis on verra ensuite pour le PS4.
Et c'est donc le financement participatif que vous avez choisi pour lancer votre jeu. Donc pourquoi avoir choisi le crowdfunding pour Célion ?
Alors, c'est une partie un peu communication et marketing. Le crowdfunding, ça sert aussi à se faire connaître et à montrer que voilà, l'avancée du projet. Et on arrivait à un moment charnière où là, on avait besoin de commencer à recruter des gens, à recruter une équipe qui pourrait du coup supporter toute la fin de la production. Et pour ça, on a besoin de fonds, forcément. Mais on a aussi besoin de visibilité pour faire connaître le jeu, parce que c'est avant tout les joueurs qui vont faire que le jeu sera un succès ou pas. Et donc, le crowdfunding, c'est un moyen de se faire connaître, de récupérer un peu de fonds, même si c'est un peu dérisoire, pour pouvoir financer des artistes. Mais voilà, c'était le moment où fallait y aller pour nous.
Et vous avez d'autres sources de financement, du coup ?
Ouais, on a, en fait, nous, on s'autofinance, on a mis de côté, on a récupéré un peu de la part de nos proches. Et puis après, c'est des emprunts à titre personnel, des emprunts pour la société. Et puis, on a la chance, en fait, en France, d'avoir le CNC, donc le Centre National du Cinéma, qui propose une aide, le Fonds d'aide aux jeux vidéo, qui peut financer, c'est une subvention, en fait, qui peut nous aider jusqu'à 50% de la production du jeu. Donc aujourd'hui, on a déposé vendredi soir, en fait, on a déposé notre dossier au CNC et maintenant on attend les résultats pour savoir si on est accepté ou pas.
Ok, et donc du coup sur votre page Ulule, parce que c'est Ulule que vous avez choisi, vous avez plusieurs contreparties, ça va de l'accès anticipé à l'armure exclusive. Comment vous avez fait pour définir les contreparties ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est beaucoup d'études de ce qui se fait, en fait. On regarde un peu les pages, on regarde ce que les gens ont proposé, ce que les types de jeux qui ressemblent aux nôtres proposent. Et puis après, on essaie d'évaluer financièrement combien ça nous coûte et combien ça... Voilà, du coup, pour proposer un prix. Et on essaie de définir une échelle. L'avantage d'Ulule, en fait, c'est qu'on a un accompagnant qui fait un travail extraordinaire puisqu'il nous appelle et il nous dit « Voilà, là, je pense que vos contreparties ne sont pas très équilibrées ou elles sont bien. » Et une fois que tout est OK, on peut partir en live.
Et vous et c'est pareil pour les paliers ?
C'est pareil pour les paliers. Les paliers, là, ils sont moins, ils peuvent moins donner leur avis puisqu'ils connaissent pas vraiment le projet et la capacité de l'équipe. Mais ça, on est plutôt capable d'auto-évaluer tout seul combien va nous coûter tel palier, puisque bon, c'est quand même notre cœur de métier de faire du jeu vidéo. Donc ça, on peut l'évaluer.
Et donc Ulule, c'est surtout pour l'accompagnement, parce que dans le monde du jeu vidéo indépendant, c'est plus commun de voir des Kickstarter que des Ulule. Donc c'est surtout pour ça, pour tout ce qui est accompagnement.
Exactement. En fait, Kickstarter, nous, on s'est cassé les dents dessus dans notre ancien studio. Mm-hmm. Et pourtant, on avait une équipe de 10 personnes. Il y avait quelqu'un qui était dédié à la communication. Donc voilà, on n'a malheureusement pas réussi. Et nous, mon associé et moi, on ne savait pas monter une page de crowdfunding. Et donc, on est allé sur Ulule parce que j'ai eu des formations avec eux, gratuites. Et il s'avère qu'ils mettent un accompagnant pour nous aider à le faire. Donc c'était aussi une façon de nous avoir une page propre à la fin. Et on a appris énormément des accompagnants.
Et donc vous êtes développeur à la base. Et du coup, j'imagine que c'est nouveau pour vous, tout ce qui est l'aspect communication, développement de la page et d'une communauté. Comment vous vivez cette nouvelle expérience ?
Et alors effectivement, je suis développeur j'apprends, je trouve que c'est une super expérience, je rencontre plein de gens, j'apprends plein de choses nouvelles et c'est assez enrichissant en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des parcours complètement atypiques et qui sont riches d'enseignements et donc moi je trouve que, moi je m'éclate là dans mon boulot depuis un an, je fais pas de jeux vidéo. Je ne développe pas le jeu puisque c'est mon associé. Je m'occupe vraiment que de la partie de gestion de la société. Et c'est, je trouve ça passionnant d'apprendre à gérer une société et à pouvoir avoir un projet de création d'entreprise avec potentiellement un recrutement de 5 personnes derrière.
Et vous avez encore le temps de jouer du coup ?
Là, depuis le crowdfunding, pas vraiment. Même mon associé est à fond sur la communication du crowdfunding. Il a laissé tomber le développement parce que à deux, c'est léger. Alors.
Donc, en introduction, on a parlé de l'E3 et des grosses compagnies de jeux vidéo. Donc, du coup, vous avez dit que vous vous chargez de la communication pour l'instant. Comment ça se passe le développement d'un jeu indépendant par rapport à un triple A, du coup, qui s'organise, qui fait quoi dans l'équipe ?
Alors, un triple A, j'ai pas eu l'occasion de travailler dans une grosse société, mais ils sont énormément. Chacun fait une petite partie. Là, on est obligé de savoir faire plein de choses. Donc, aujourd'hui, on a un développeur qui est mon associé qui fait tout le jeu. Et puis, on a évalué un peu quelle était la capacité, notre capacité de financement et combien du coup avec cette capacité, ce qu'on pouvait faire comme jeu. Donc, on a réduit nos prétentions, forcément, puisqu'on n'a pas les capacités d'un triple A pour sortir. Un World of Warcraft 2 et donc on est obligé d'évaluer, de faire des choix en fait techniques, stratégiques de développement pour pouvoir proposer un jeu de qualité aussi et dans un temps plutôt très court puisqu'on court un peu contre la montre quand on fait du jeu vidéo indépendant parce qu'on sait que les gros ils peuvent nous rattraper en 6 mois quoi.
Ouais. Et du coup, toujours dans l'aspect un peu communication, j'imagine vous restez accessible à une potentielle communauté. Si on a des questions sur le jeu, est-ce qu'on peut vous contacter via vos réseaux, via...
Ouais, alors avec plaisir. En fait, j'essaie d'être le plus réactif possible. En général, je mets la journée à répondre grand max, surtout là en cette période de crowdfunding. Donc, faut pas hésiter. En fait, on a un site web sur lequel il y a un Facebook, un Twitter, un canal Discord. Il suffit de nous envoyer soit des messages privés sur Discord, soit sur Twitter ou sur le Facebook. On a plusieurs personnes avec qui on a déjà discuté, des studios indépendants qui sont venus nous voir et donc même des bars sportifs comme au Havre on a été démarchés pour venir chez eux donc faut pas hésiter, il y a les mails aussi, on a une adresse de contact et je, pour l'instant j'ai encore le loisir de pouvoir répondre à tous ceux qui m'écrivent je le fais, je dis pas que dans un an si jamais on a 1000 mails par jour on y arrivera mais là aujourd'hui faut pas hésiter, on est disponible.
Et donc Célione, pour revenir un peu au jeu donc avec tout ce que vous nous avez dit là sur donc les arènes, l'univers, l'aventure solo, moi j'aimerais bien y jouer. Donc est-ce que je pourrais trouver une démo ou même des images un peu du jeu ?
Alors aujourd'hui, on est en phase de prototype, donc il faut venir discuter avec nous sur le Discord et voir un peu l'état du jeu, et on peut vous passer effectivement des clés d'accès au prototype. Donc graphiquement, ça choque un peu puisque ce n'est pas du tout des graphismes auxquels on est habitué, mais dans la phase d'un développement d'un jeu, c'est normal en fait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert au grand public, parce que tous ne sont pas n'ont pas la connaissance qu'un jeu, en fait, ça se fait pas tout de suite avec des beaux modèles, qu'il y a toute une phase préliminaire de travail avant. Et donc c'est avec les gens qui sont sur le Discord, qui sont du coup les plus proches et qui ont vraiment envie de tester, avec qui on discute, on leur passe des clés et ils testent, et puis on fait des soirées avec eux, puisqu'on peut jouer en réseau actuellement avec notre jeu, quoi.
Et il a déjà été testé, vous l'avez déjà vu être testé, je crois que vous avez fait une soirée au Meltdown.
Ouais,
de...
on a fait deux soirées en fait. Moi j'étais la semaine dernière à Paris au Meltdown, et mon associé était donc au Meltdown de Paris, et lui il était au Meltdown de Rennes. On l'a fait tester, les joueurs, en fait quand on est à côté, qu'on leur explique pourquoi graphiquement ça choque, parce que visuellement voilà, c'est des corps très, très épurés. En fait, passé ça, ils s'amusent, ils ont passé une bonne soirée, donc c'est plutôt agréable d'avoir des retours des joueurs qui sont assez enthousiastes. Et puis on essaie de prévoir une soirée avec le Warp Zone dans les semaines à venir là.
Ok, super. D'autres événements de prévus peut-être?
Jeudi soir, on est avec un streamer qui s'appelle Elstrif, okay. qui va nous faire 2 heures d'interview sur le jeu. Et puis on a un podcast là qu'on a tourné hier soir avec une autre chaîne Twitch de studio indépendant qui va circuler. Voilà.
Ok, donc à retrouver sur Switch. Et donc pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner une date de sortie pour le jeu si le financement est un succès ?
Si le financement est un succès, on envisage de sortir le jeu autour de septembre 2019.
Eh bien merci Tristan Le Bouffant d'avoir répondu à mes questions, et on vous souhaite une réussite pour Célion et pour nos auditeurs gamers qui souhaiteraient soutenir le projet. Rendez-vous sur le www.ulule.fr/Célion.
Merci à tous les deux, on poursuit en musique avec Strup, un groupe rennais qu'on apprécie beaucoup ici à Silab, et dans quelques instants on se retrouve avec les membres d'Alternatiba.
has been surely. The story's over. We have no promises we can make. You're going straight to the black hole. You totally lost control. Make it last right, little last, you know. You're turning around, round and round. Make a last trip around the universe, traveling the Milky Way. Houston repeating, the story's over. Not quite dead, but cruising in a coma. Who decides? God's above. Satellites dancing on you. Lost alone in the universe, there's a bunch of robots too. Promise me not to forget, used to follow too. I'm alone in the universe, a universe, a universe.
C'était le groupe Strup, un excellent groupe rennais qui vient de sortir ce nouvel album. Découvrez-les un peu partout en concert. Et maintenant, on parle tout de suite du Tour Alternatiba.
Cette semaine a commencé avec 50 degrés à Sydney et moins 40 sur la côte est américaine. Qu'on se les pèle ou qu'on crame, le dérèglement climatique c'est maintenant. Mais comme j'ai pu te le montrer pendant la COP23, il n'y a personne. On peut pas attendre qu'en haut, ils nous pondent des solutions miracles. Sur la base de ce constat, un paquet de monde s'est mis en tête de développer des alternatives, des solutions locales dont la simple existence est un pied de nez à un système qui s'effondre.
Et oui, relever le défi climatique, c'est bien l'objectif d'Alternatiba avec ce Tour Alternatiba qui se déroule déjà depuis le 9 juin et qui se déroulera jusqu'au 6 octobre un peu partout en France avec des cyclistes qui viennent comme ça bien, expliquer énormément de choses, notamment parler de climat. Ce sera le cas à la Maison de la Consommation et de l'Environnement le 5 mai puisqu'il y a une grosse journée sur le mail François Mitterrand à Rennes, mais aussi à Derval par exemple. Et on a les deux responsables aujourd'hui avec nous, Marine et Romain. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est un gros événement national, mais ici à Rennes ça s'est organisé, vous êtes tous les deux les référents. Comment est-ce que ça se déroule de gré de toute pièce, un événement comme ça? Marine, on peut commencer avec toi, toi qui es sur Derval.
Ben, j'avoue, c'est un peu ambitieux au début parce qu'on a plein d'idées. Il y a un gros enjeu, c'est un mouvement national et on se dit comment on va essayer de faire ça sur tous les territoires. Et c'est en fait en allant dans chaque ville, donc par exemple sur Derval, où on se rend compte que localement, il y a déjà énormément de monde qui font des choses et qui sont demandeurs à s'exprimer, à diffuser leurs idées. Et du coup, on est arrivé sur Derval. On a vraiment eu beaucoup d'associations qui se sont spontanément rassemblées et qui vont proposer des ateliers et puis des visites et accueillir le tour comme il se doit.
Ce sera notamment l'objet du village associatif qu'on retrouvera de 16h à 21h dans la salle du stade de Derval. Qu'est-ce qu'on pourra y trouver plus précisément sur ces assos-là?
Alors sur ces assos-là, il va y avoir des recettes en fait de lessives ou de cosmétiques qui sont proposées par deux associations, donc il y a Terragir pour la planète et le collectif des Têtes à Poux. Et il y aura aussi d'autres associations, par exemple pour sortir du nucléaire, il y aura Eau et Rivière, il y aura alors ça ne me revient plus parce qu'il y en a tellement, mais il y a des ateliers et à la fois des présentations, des activités des associations locales tout au long de la journée.
Cette journée, c'est le 6 juillet à Derval, on l'a dit. À Rennes, ce sera la veille avec le village associatif également qu'on retrouvera sur le mail François Mitterrand, mais énormément d'autres choses comme les concerts, par exemple, Syllab a contribué et contribuera, donc vous pourrez venir nous découvrir aussi. Et puis, par exemple, une conférence de presse que vous avez choisi de mener, ça va être quoi l'objet de cette conférence de presse?
La conférence de presse va parler, entre autres choses, et principalement du PCAET de Rennes Métropole, donc le plan climat, air, énergie territoriale. Donc c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder auprès des citoyens parce que bon, c'est pas toujours très simple, tout le monde s'y intéresse pas toujours, ça se fait au niveau des politiques et c'est, même si le but c'est d'ouvrir vers les citoyens, ce n'est pas toujours le cas dans les faits. Donc là l'idée c'est d'avoir trois élus, donc un élu sur la mobilité, un élu sur l'économie sociale et solidaire et un élu sur la démocratie locale. Et d'avoir ces élus qui vont parler avec nous et avec d'autres membres d'associations auprès des citoyens, devant les citoyens pour justement ouvrir au plus possible
aux citoyens, encore une fois.
Et ça va se dérouler entre deux concerts, un d'Ethio Jazz et un d'un des rock, un des pop. Donc forcément, c'est les bonnes conditions. Sur ces concerts-là, on peut citer les artistes. Ibex Walia, l'Ethio Jazz, je le citais, c'est à partir de 14h. Sinross ensuite à 16h. 18h30, ce sera Worm avec du post-rock. Et à 19h30, Man and Sin, du métal cette fois. Donc toute la diversité. Comment ça se déroulait, le choix de ces artistes-là?
Alors, Man and Sin ont été les premiers à nous contacter. On ne s'attendait pas à faire des concerts, on n'avait pas prévu d'en faire. Et quand ils nous ont contactés, on s'est dit, bah, en fait, banco. Il y a un groupe qui veut jouer, groupe métal engagé, ils veulent jouer, profitons-en, touchons un autre public. Vu que l'idée, c'est quand même d'avoir un mouvement citoyen de masse, donc touchons des citoyens qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Donc là, du métal, on s'est quand même mis le groupe plus tard, le soir, on a vu avec les musicos pour le mettre un peu plus tard, histoire de ne pas gêner le public qui ne serait pas trop habitué au métal, on va dire. Mais après, on a vu avec Syllab pour trouver d'autres groupes, histoire de faire un petit patchwork de musique et de toucher encore une fois plein de citoyens différents.
Effectivement, c'est que du groupe local et ça fait plaisir aussi pour accueillir cette Vélorussion. La Vélorussion, c'est quand même pas mal de kilomètres. On peut en savoir plus sur ces personnes qui se sont lancées dans ce grand tour Alternativa?
Ça peut être n'importe qui en fait. Donc le premier, c'était principalement des militants très investis qui n'ont pas beaucoup tourné sur les 5000 et quelques kilomètres. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus facile pour eux vu qu'ils vont faire des relais toutes les 2 ou 3 semaines. Donc certains prennent des vacances, on va dire. Et par contre, il y a quand même vachement plus de monde. Donc là, c'est des citoyens qui peuvent venir s'inscrire un peu comme ça. Donc bon, maintenant, il n'y a plus trop de place, on va dire, vu que c'est une liste de soutien pour si jamais il y a des absents. Mais voilà, c'est par exemple... Tu aurais pu t'inscrire, Marino aurait pu s'inscrire, j'aurais pu m'inscrire, n'importe qui pouvait le faire en fait via un formulaire en ligne.
Une fois de plus, un maximum de citoyens.
Et donc voilà. Ça, c'est les cyclistes qui font tout le tour, donc qui se relaient voilà, tous les 3 semaines, donc ça va dépendre. Et en fait, à chaque arrivée dans chaque ville, sur les derniers kilomètres, n'importe qui, tout chaque citoyen est invité à venir les accueillir. Donc il y a différents points de rendez-vous à chaque étape pour faire les derniers kilomètres avec eux et faire une espèce... Donc la Vélorussion, en fait, c'est plutôt la parade pour arriver dans la ville. Et voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Et l'idée, c'est de leur dire, voilà, vous êtes 12 à pédaler tous les jours, à faire ville midi et soir. Et ben nous, on est là en masse pour vous accueillir dans notre ville et vous montrer ce qu'on fait, quoi.
Donc pour ceux qui veulent faire ça, c'est à 16h30 à la patinoire des Gailleuls à Rennes, avec l'arrivée à 18h sur le mail François Mitterrand, et une batucada et tout ça, ça va être du lourd sur Rennes. Et en ce qui concerne Derval, ce sera le méthaniseur de la touche, pour ceux qui connaissent le coin, avec l'arrivée au stade vers 17h30. Pareil, en grande pompe, c'est aussi ça qui est important. L'objet de la conférence que vous organisez, c'est les cyclistes là, qui vont à la MCE venir intervenir. Il y a des thématiques, ça va se dérouler comment? Ce sera dans l'échange aussi?
Alors, il y aura une partie vraiment... pas exposé, mais explication du dérèglement climatique, de l'emballement climatique. Vraiment sur tout ça, et bien l'expliquer pendant, on va dire, une petite heure. Après, il y aura toute la partie débat, questionnement, avec les cyclistes qui pourront répondre à toutes les questions qui pourraient être pointues ou pas en fonction de leurs compétences. Et là encore, une fois, c'est tous les cyclistes vont pouvoir le faire. Donc sur une étape, ça va être une personne, sur l'étape suivante, ça va être une autre personne. Il y a eu une formation de mise en place pour qu'il y ait une équipe de cyclistes assez... nombreuses qui puissent faire cette formation.
Vous développez un concept Alternativa qui est la résistance non violente et notamment des formations à la résistance non violente. Marine, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'action non violente, ça part d'un constat, c'est que on peut exercer ses droits citoyens aussi via la désobéissance civile, en fait. Donc, ça va être de faire des actions pour dénoncer, voilà, par exemple, des projets climaticides ou des actions qui nous semblent certes légal, mais en total désaccord avec la protection de l'environnement, la protection du climat. Et donc ça va être de mettre en lumière ces actions-là, soit ça peut être de l'affichage, des manifestations ou de l'occupation de sites, tout ça de manière non violente, en essayant de porter le message de pourquoi on n'est pas d'accord avec ces projets-là, sur ces campagnes-là. Et je ne sais pas si tu veux compléter peut-être, Romain.
Je dirais qu'en plus, avec la non-violence, on est mieux accueilli par le public et les citoyens, et ils sont plus à même de nous rejoindre sur ces formations, sur ces actions plus tard. Donc c'est encore une fois dans un esprit d'ouverture.
Le terme action non-violente, oui, marche peut-être mieux que désobéissance civile, c'est donner un côté un peu positif, rassurer aussi les gens, c'est important aujourd'hui, quand on parle de mobilisation, de lutter, de préciser non-violent.
Moi, je pense que c'est totalement important, oui.
Oui, oui, quand même. Les gens ont assez peur de se retrouver, que ce soit dans des manifs ou des actions, avec des personnes qui pourraient s'en prendre à elles, tout simplement. Donc, les rassurer, être avec les personnes, que ce soit sur l'action, avant ou après, du soutien, qu'il y ait des procédures juridiques qui sont engagées contre les activistes ou pas, il y a du soutien derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être tous ensemble.
Et puis d'informer aussi. Donc, en fait, sur les étapes, à chaque lendemain du passage du tour, il y a des formations donc, à l'Action dans le Monde qui sont organisées dans chaque ville. Donc, par exemple, à Rennes, ça sera le 6 juillet. Tu allais peut-être en parler.
Non, justement, sur peut-être les conditions, comment est-ce qu'on fait pour s'y inscrire à ces formations-là?
Alors, il y a un site qui a été mis en place par l'équipe du National d'Alternatiba où on peut retrouver toutes les étapes avec le parcours sur la carte de France. Et chaque étape va avoir ses activités de détailler. Et sur les activités, on peut retrouver les formations où on peut s'inscrire. Donc l'idée, c'est quand même de s'inscrire aux formations pour avoir un suivi quand même de toutes les personnes qui vont venir, d'avoir les mails et aussi de pouvoir faire un comptage, savoir combien de personnes on a pu former avec le Tour Alternatiba.
C'est par ce biais-là aussi qu'on peut vous rejoindre pour devenir bénévole, par exemple, filer un coup de main sur le Tour?
Tout à fait, on peut nous contacter par mail, par Facebook, par... le site internet, l'autre site du tour spécial étape, donc voilà, on est ouvert à tout le monde.
Et on a besoin de bénévoles ouais, sur le jour J principalement, mm-hmm. parce que vu l'ampleur de ce qu'on prépare, il y a beaucoup de travail. Ouais.
Pour quel type de mission justement?
Bah, ça peut être encadrer les Vélorussions, parce que c'est des parcours de, voilà, de 3 à 5 km, donc sur les carrefours dangereux, guider les personnes, donc sur la sécurité par exemple. Ou alors ça peut être tenir des stands ou aider au montage des scènes, par exemple sur Rennes, le démontage des scènes aussi, parce qu'au final, à Rennes, ça se passe toute la journée. Donc il y a du travail en amont, après, et également durant, par exemple, pour participer, pour faire à manger pour tout le monde aussi, parce qu'on tient aussi des stands pour boire et manger pendant tout ce temps d'événement, donc voilà.
Donc oui, chers auditeurs, si vous rêvez de voir Aurélien, le technicien de Silab, que vous savez derrière les manettes depuis longtemps, monter des scènes et tout ça à partir de 8h du matin, et lui servir à manger en plus à midi, n'hésitez pas à venir vous inscrire comme bénévole. Il vous fera un bisou, il sera très heureux de reconnaître ses auditeurs. Y a un film que vous diffusez depuis quelques temps déjà, très régulièrement, c'est Irindzina, qu'on va encore retrouver une fois de plus. Vous pouvez m'en parler de ce film-là?
Alors c'est le film qui raconte l'histoire de la naissance du mouvement Alternatiba, mais aussi ANV COP 21, avant que les deux mouvements aient fusionné. Donc Alternatiba, qui était plutôt sur la promotion des alternatives. Donc on voit, par exemple, vu que le film est en trois grandes parties, le Tour Alternatiba, donc le premier. On voit aussi la COP 21, avec le QG Alternatiba qu'il y avait à l'île Saint-Denis. Et on voit la partie Pau, donc sommet pétrolier, qui a été, on va dire, légèrement gâché par ANV COP 21, et même complètement gêné. Donc voilà.
Et ce film, en fait, on essaye de le diffuser. Il a déjà été diffusé à Rennes deux fois. Et là, en fait, pour donner aux gens l'envie de venir participer à ces événements, on le projette donc c'est à Langouette ce vendredi soir à 20h30 à la bibliothèque. Et également le 2 juillet, donc c'est mardi prochain,
à Vitré.
Et si les gens veulent venir se renseigner avant de participer à ces événements et avant de passer à l'action, on va dire, et ben n'hésitez pas à venir voir ce film.
On met des événements Facebook pour un peu tous ces événements-là, histoire que ça soit le plus facilement retrouvable. Mais il ne faut pas hésiter à nous contacter par mail ou par Messenger, Facebook, etc.
Et c'est dans l'agenda du site internet également.
Passer à l'action, Romain, on sait un peu maintenant, les auditeurs qui te connaissent bien normalement, puisque tu viens souvent défendre ton engagement à Alternatiba, savent pourquoi tu as souhaité faire ça. Mais alors toi, Marine, pourquoi est-ce que tu as souhaité passer à l'action, justement, et t'engager dans Alternatiba?
Bah en fait, moi j'avais connu le Tour Alternatiba en 2015, justement à l'arrivée du Tour avant la COP21, donc c'était à Paris, j'étais à Paris avant. Et du coup, ça m'avait un peu ouvert les yeux sur tout un monde, tout plein d'alternatives. Et depuis, je ne savais pas trop s'il y avait des choses qui se passaient. Et en arrivant sur Rennes et en entendant aussi le fait qu'il y avait le Tour 2018 qui se préparait, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, il y a forcément besoin d'aide pour organiser ça. Et en plus, là, on organise 5 étapes. Donc, il y avait forcément besoin d'aide. Et, Et j'avais envie de passer à l'action de cette manière-là.
Et sur la question climatique, environnement, on pourrait dire qu'à Alternativa, vous avez une vision assez, on va dire, pas positive des choses, mais en tout cas des issues, envie de trouver justement ces alternatives-là. Ça fait du bien, peut-être, de se rendre compte qu'il y a des choses qui existent.
C'est de passer, en fait, des constats et... des choses un peu négatives, il y a des projets qui sortent, la politique n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on pense, et du coup, au niveau local, sans attendre que ça vienne d'en haut, qu'est-ce qui existe sur place, et voilà, aller à la rencontre de toutes ces associations et monter ces événements-là, ça m'a donné envie, et du coup, j'espère que ça donnera envie à d'autres gens de s'investir dans les vies locales et de bouger les choses depuis chez eux, quoi.
Mais oui, revenez trouver un peu d'espoir à Concoret le 4 juillet, le 5 à Langouette et à Rennes sur le Maï François Mitterrand. On y sera également avec plein de concerts le 6 juillet à Bain-de-Bretagne et à Derval. Merci beaucoup Marine et Romain d'avoir été avec nous.
Merci.
Je vous rappelle que vous retrouvez tout ça sur Alternativa Rennes, que ce soit les réseaux sociaux ou sur cet immense site aussi du Tour Alternativa où vous trouverez vraiment toutes les infos. Même si vous nous écoutez d'ailleurs en France, vous avez aussi des événements puisque moi je crois que je les ai vus passer... Je ne sais plus où, si ce n'était pas Mulhouse, il fut un temps. Et je me suis dit, ah tiens, c'est vrai, on a nous aussi un tour Alternativa très prochainement. Donc un gros programme, nous à Rennes, ce sera de 14h à 21h. Syllab sera dans la place, bien entendu. Nous allons en profiter pour écouter Synros, puisque c'est un des groupes qui jouera à 16h. Ils étaient dans Sylive, votre émission favorite sur Syllab, bien entendu. On les écoute tout de suite.
Choice is a
c'est bon d'entendre Synros sur Sylabs. Ça faisait longtemps, vous retrouvez le Sylive qu'ils ont réalisé en vidéo, bien entendu, sur notre chaîne YouTube. Ça vaut le coup aussi de regarder, c'est un groupe très visuel. Ils sont tous les deux beaux comme des dieux. Maintenant, entourés aussi de leur ingé son et de leur ingénieur vidéo, ça donne vraiment du lourd. Je crois qu'ils font d'ailleurs une présentation de fin de répétition dans leur ville de Saint-Malo très prochainement. Vous vous renseignez, hein, comme des grands, Synros. Et puis vous... jeudi prochain, voilà, me dit mon oreillette, qui est justement l'ingénieur aussi de tout ça. Voilà, il n'y a que de l'ingénierie, c'est magnifique. Et il faut vraiment voir, découvrir Synros, parce qu'il y a de grandes chances pour que ça perce tout ça. Vous les retrouvez notamment à Bobital. Enfin voilà, vous vous abonnez à leur page un peu partout. Vous allez écouter tout ça, c'est complètement magnifique. Et vous nous rejoignez à 16h le 5 juillet sur le Mail François Mitterrand dans le cadre d'Alternatiba. Merci à Alexandre d'avoir co-animé cette émission avec moi. Et merci à Aurélien La Technique. Et nous, on se retrouve demain.